Cinquième aventure de Pierrot. Combat de Pierrot contre Belzébuth et les esprits infernaux. Il y a, dit le vieil Alcofribas en commençant le cinquième livre de l'histoire de Pierrot, quelque chose qui va plus vite que le vol de l'hirondelle, plus vite qu'une locomotive lancée à toute vapeur, plus vite que le vent qui passe sur la montagne et qui au même instant rase déjà la plaine, plus vite que la lumière du soleil qui parcourt 80 000 lieues par seconde. C'est la pensée de l'homme. Et Pierrot galopait plus vite que ne court la locomotive et que ne vole l'hirondelle, mais sa pensée galopait encore devant lui. Le sage enchanteur entend par là que notre ami Pierrot était fort pressé d'arriver et qu'il ne s'arrêtait guère à considérer à droite ou à gauche des objets qui se trouvaient sur la route. Horribilis l'avait bien prévu, et c'était pour forcer Pierrot de quitter le commandement de l'armée qu'il avait fait enlever et transporter la belle Rosine et sa mère dans la forteresse invisible gardée par les esprits infernaux. Cependant Pierrot, tout en enrageant de ce délai, crut de son devoir de se rendre aux ordres de Vandripan et de lui dire l'état des affaires sur la frontière et sa dernière victoire sur les Tartares. Fanlaire, aussi infatigable que lui, courait comme si le salut du monde eût dépendu de sa vitesse. Enfin Pierrot arriva, et tout botté et tout éperonné, se présenta devant Vandripan. Le moment n'était pas favorable. Ce grand roi, ayant mangé trop de melons, avait mal digéré et se trouvait de fort mauvaise humeur. Aussi fit-il une vilaine grimace quand on annonça l'arrivée du grand connétable. « Ah ah !» dit-il, « le voilà donc, ce rebelle !»« Qu'il entre !»« Sire, » dit Pierrot en entrant, « que votre majesté me pardonne ma hardiesse, je ne suis pas un rebelle !»
« Et que es-tu donc drôle? Tu abuses de mes bontés, tu te glisses à ma cour, je te fais grand connétable, grand amiral, premier ministre, je te donne mon sceau royal, je te délègue mon autorité suprême et j'apprends que de toutes parts on se plaint de toi, que tu opprimes mes sujets, que tu jettes mes officiers en prison, que tu fuis devant les Tartares, que tu n'oses livrer bataille, que tu déshonores mes armes et la gloire de mon empire. Enfin, pour comble d'audace et d'insolence, tu oses te révolter contre ton prince. Tu paies des soldats séditieux pour qu'ils te proclament roi. Est-ce la conduite d'un sujet fidèle ou révolté ? Réponds. »
En parlant, ce grand roi s'échauffait et s'enhardissait peu à peu jusqu'à insulter Pierrot. Les courtisans, qui connaissaient le caractère fier et peu endurant de celui-ci, commencèrent à trembler et à regarder du côté de la porte, s'attendant à quelque scène violente. Eh bien, ils se trompaient. Pierrot répondit avec beaucoup de sang-froid. Oserais-je demander à votre majesté de qui elle a reçu des renseignements si authentiques sur mon administration ?
« Et de qui ?» répliqua Vandripan, qui se méprit au sang-froid de Pierrot et crut qu'il avait peur. « Et de qui, si ce n'est du seul de mes sujets, qui soit assez fidèle et courageux pour oser te dénoncer à moi et braver ta vengeance ?»«
Et quel est ce sujet, si fidèle et si courageux ?» demanda pour la seconde fois Pierrot. Vandripan s'aperçut qu'il était allé trop loin et que Pierrot commençait à s'échauffer. Il eut bien voulu rattraper ses paroles et les renfoncer au fond de son gosier, mais une parole échappée, dit très bien le vieil Alcofribas, et comme une hirondelle qu'on met en liberté, elle ne revient jamais vers celui qui l'a lâchée. Enfin, il répondit avec quelque embarras.
Ben c'est Horribilis qui m'a découvert tous ces abus.
Sire, dit Pierrot, que le prince Horribilis rende grâce à l'honneur qu'il a d'être de votre sang et l'héritière de votre couronne. Mais je ne supporterai pas aussi aisément d'un autre de pareille calomnie. Qu'on produise des témoins contre moi, et je me justifierai.
Des témoins, dit Ventripan embarrassé. Cela est bien facile à dire. N'en a pas qui veut des témoins.
Mais j'en ai, moi, Majesté, dit Pierrot. Et il rendit compte de son administration d'une manière si claire, si précise et si éloquente que toute la cour était dans l'admiration et le pauvre Ventripan dans la stupeur. Mais quand Pierrot termina son récit en annonçant la fuite des Tartares que le roi ignorait encore, ce fut un concert d'acclamations. Le gros Ventripan se leva lui-même et l'embrassant, le fit asseoir à côté de lui.
Pardonne-moi, mon pauvre Pierrot, lui dit-il, d'avoir cru tous ces mensonges. Tu le sais bien, je t'ai toujours aimé, et je n'aimerai jamais que toi. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs et des misérables que je ferai pendre ou empaler à ton choix.
Majesté, dit Pierrot, je vous remercie de l'offre que vous me faites, mais je ne l'accepte pas. Je ne veux pas être plus longtemps un sujet de querelle ou de scandale dans votre cour et dans votre famille. Je me retire, et je désire que le ciel vous donne des serviteurs non plus dévoués que moi à votre service, cela est impossible, mais plus heureux.
Oh, ne te retire pas, s'écria Ventripan, je te le défends. J'ai besoin de toi. Je veux t'avoir près de moi jusqu'à mon dernier jour. Que te manque-t-il? Je te le donnerai sur l'heure. Veux-tu ma fille en mariage? Tu me l'as déjà demandé. Eh bien, je te la donne. Et si elle a fait autrefois quelques difficultés, je suis sûr qu'elle sera aujourd'hui la première à te présenter la main. N'est-ce pas vrai, Bandolinette?
La princesse fit signe que rien ne lui serait plus agréable. Mais il était trop tard. Pierrot était cuirassé contre l'ambition et il se souciait peu de toutes les princesses du monde. Il fut cependant fort embarrassé car il n'osait dire en public qu'il refusait la main de la belle Bandoline, ce qui n'était pas poli et il voulait encore moins laisser croire qu'il l'acceptait.
« Sire, dit-il enfin, je sens tout l'honneur que votre majesté veut bien me faire. » Il est vrai qu'en d'autres temps, j'ai désiré cette alliance. Mais depuis, j'ai réfléchi qu'elle était trop au-dessus des vœux et de la naissance d'un sujet et du fils d'un meunier. « Mais de quoi te mêles-tu ? » s'écria Ventripan. « Si ma fille et moi, nous te trouvons bon tel que tu es. Est-ce à toi de faire des façons ? Allez, va, donne-moi la main, et toi aussi, Bandolinette. » Et nous ferons la noce dans 3 jours. »
Bandoline donna la main, mais Pierrot resta immobile.
« Majesté, reprit-il, cette alliance, oui, autrefois, eut comblé tous mes voeux, mais aujourd'hui je ne puis plus y prétendre. J'ai le dessein, aussitôt que votre majesté voudra me le permettre, de résigner entre mes mains tous mes emplois et de me retirer dans un village. Je veux me faire fermier. J'ai des goûts rustiques, sire, ce qui ne doit pas vous étonner. Paysan, je suis né, paysan, je mourrai. Une ferme est-elle un séjour convenable pour une si grande princesse ?
Pierrot, dit le gros Ventripan, tu me caches quelque chose. Oh, tu as quelques raisons que tu ne veux pas dire. Voyons, est-ce le ressentiment d'avoir vu ta demande refusée? Alors Bandoline va te demander elle-même en mariage. Après cela, sabre et mitraille, que peux-tu demander davantage? Ton orgueil est-il satisfait?
Pierrot, dit la belle Bandoline en rougissant, me voulez-vous pour femme? Et si vous vous faites fermier, voulez-vous que je sois votre fermière?
Il est trop tard, dit Pierrot. La place est prise.
Si jamais on voulait peindre le comble de l'étonnement, il faudrait représenter la figure des courtisans du grand ventripan. Le grand ventripan lui-même et la pauvre Bandoline. Les uns et les autres n'en pouvaient croire leurs oreilles. Il n'y avait pas dans les annales des 95 dynasties qui ont régné 150 000 ans sur la Chine un seul exemple d'un pareil refus. La position de Pierrot était devenue si délicate qu'il aurait donné beaucoup pour voir finir cette conversation. Malheureusement, il n'osait s'en aller, mais restait seul, debout et les yeux baissés au milieu des regards de tous. Ses paroles furent suivies d'un long et profond silence. Enfin, Ventripan s'écria. « Mais 1 000 000 000 de cathédrales, Pierrot, es-tu venu pour m'insulter ?»«
Vous vous trompez, sire, » dit Pierrot avec une respectueuse fermeté. « Je n'ai point brigué l'honneur que votre majesté daigne me faire. Et comme je ne le puis accepter, je le déclare avec sincérité. »
À ces mots, la princesse Bandoline ne put retenir ses larmes. La honte et la douleur la suffoquaient.
« Ô ciel !» s'écriait-elle, « être dédaignée par celui que j'ai dédaigné si longtemps !»
Elle se leva et, suivie de sa mère, alla pleurer à l'aise dans son appartement. Il faut tout dire, Pierrot, vainqueur des Tartares, Pierrot, premier ministre adoré de tout un peuple, ce qui est si rare pour un ministre, avait une toute autre mine que Pierrot, capitaine des gardes, et connu seulement par son fameux duel avec Pantafilando.
Mais pourquoi, disait-elle amèrement, n'ai-je pas su deviner ce qui deviendrait un jour? Pourquoi l'ai-je méprisé?
Et son imagination s'enflammant peu à peu, elle résolut de connaître sa rivale pour se venger d'elle, et s'il était possible, l'enlever à Pierrot. Pendant qu'elle formait des projets si funestes à la tranquillité de notre héros, il essayait, en faisant force excuse, de sortir convenablement du mauvais pas où il était engagé. Mais il ne put y parvenir.
« Pierrot, lui dit Ventripan, tu as insulté la majesté royale. Tu as dédaigné ma fille. Je devrais te faire pendre. Mais, ajouta-t-il sur le champ en voyant étinceler les yeux de Pierrot, je me contente de te bannir de ma présence. Allez, tu n'es plus ni ministre, ni grand connétable, ni grand amiral. Tu n'es plus que Pierrot, Pierrot tout court, entends-tu bien ? C'est-à-dire un homme de rien, un ingrat, que j'ai nourri de mon pain, abreuvé de mon vin, que j'ai caressé et réchauffé dans mon sein, et qui, comme un serpent venimeux, veut mordre son bienfaiteur. Va-t'en.
Sire, commença Pierrot, va-t'en, va-t'en. Sire, va-t'en, je ne veux plus te voir. Mais sire, je ne veux plus entendre parler de toi. Sire, va-t'en et que dans 24 heures, on ne te retrouve plus dans ma capitale où je te fais empaler.
Halte là, majesté, cria Pierrot à bout de patience. Je regrette que vous me renvoyiez après que je vous ai si bien et si fidèlement servi. Mais s'il vous est permis d'être ingrat, il ne vous est pas permis de m'offenser ni de me menacer. Souvenez-vous, sire, que sans moi, votre majesté aurait depuis longtemps rejoint ses ancêtres dans la tombe.
Je garde un souvenir trop récent de vos bienfaits, de la confiance que vous aviez en moi pour répondre avec colère à une menace que vous regretterez sans doute, que vous regrettez déjà, j'en suis sûr. Mais si quelqu'un osait mettre cette menace à exécution, sire, je tirerai du fourreau pour ma défense ce sabre que j'ai si souvent
tirez pour la vôtre, et Dieu aidant, personne ne m'attaquera impunément. » À ces mots, il sortit de la salle d'un air si intrépide que tous les assistants furent saisis d'admiration et de crainte. Chacun s'écarta avec respect et il rentra dans sa maison. Quand il fut parti, Ventripan respira. La fière contenance de Pierrot lui imposait plus qu'il ne voulait l'avouer. Il essaya de tourner en plaisanterie ses dernières paroles. Les courtisans firent quelques efforts pour lui persuader qu'il avait eu raison de maltraiter son ancien ami, mais au fond, il sentait qu'il avait eu tort. « Voilà ce que c'est, dit-il, que de mal digérer. »« Oh, c'est pas trop ce qu'on dit, on se mord la langue pour avoir trop parlé. »« Mes enfants, quoique le grand Frotteribord ne fût pas un fort habile homme, il avait grandement raison en cette occasion. Et que vous ayez mal ou bien digéré, vous ferez bien de suivre en tout temps son conseil. Trop gratté cuit, trop parlé nuit, dit le proverbe. » Rentrant chez lui, Pierrot ne pensait plus à ses emplois perdus, à la colère de roi Ventripan, à la haine d'Horribilis, au Tartare, ni à qui que ce soit. Il ne pensait qu'à la grande expédition qu'il allait entreprendre pour délivrer sa Rosine bien-aimée. Il donna quelques heures à Fanlair pour se reposer et, congédiant ses pages et ses domestiques, avec un présent proportionné au service de chacun, il partit dès le lendemain. Dès qu'il fut hors des portes de la ville, il se sentit si heureux, il était si sûr de délivrer Rosine et, après l'avoir délivrée, de ne plus la quitter, qu'il faisait 1000 projets, bâtissait 1000 châteaux en Espagne, dont la seule idée lui promettait plus de bonheur que la réalité peut-être n'en pouvait donner. « Malgré ma disgrâce, je suis riche encore, pensait-il. Je vais acheter une ferme magnifique, toute semblable à celle de Rosine, mais beaucoup plus grande parce que nous serons plus nombreux. J'y ferai bâtir une belle maison à mi-côte, toute blanche, avec des volets verts, ce qui est plus gai. Elle aura 2 façades, dont l'une sera tournée à l'Orient et l'autre à l'Occident, afin qu'on puisse voir le soleil quand il se lève et quand il se couche. Elle sera partagée en 2 corps de logis de grandeur égale, dont l'un pour la cuisine, la salle à manger, l'office, le cellier et l'appartement de la fée Aurore. L'autre... À ces mots, il fut interrompu dans son agréable rêverie par un coup léger qu'une main amie lui frappa sur l'épaule. Il se retourna et reconnut avec joie la fée Aurore. « Eh bien, dit-elle, où vas-tu donc ce matin ?»« Je vais chercher Rosine, dit-il. » Et il fit à la bonne fée le récit de sa séparation avec le roi Ventripan. Elle se mit à rire. « Oh, console-toi, dit-elle, il aura bientôt besoin de tes services et il te rappellera. »« Mais je suis tout consolé, répliqua Pierrot, s'il veut bien ne me rappeler jamais. »« C'est bien dit. Tu vas donc chercher Rosine ?»« Oui, ma reine. Où ?» Pierrot se gratta le front avec embarras. Mais tu t'embarques sans biscuit et sans boussole, dit la fée. Cette audace confiante me plaît, mais. Audaces fortuna juvat, dit sentencieusement Pierrot. La fortune aide les audacieux. « Oui, la fortune aide les audacieux quand ils sont eux-mêmes un grain de prudence. Ainsi, tu te figures bonnement que je vais te servir de guide et te conduire à ce château invisible qui tient enfermé la plus belle de toutes les rosines de ce monde ?»« Ben, assurément, dit Pierrot. Eh bien, tu te trompes, mon ami.
J'ai affaire. Oh, ma reine, point du tout, j'ai affaire.
Hélas, dit le désolé Pierrot, je n'ai donc plus qu'à mourir.
Meurs si tu veux, mais en seras-tu plus avancé? Rosine en sera-t-elle plus libre?
Oui, mais dans un sens, c'est qu'elle pourra épouser un autre que toi.
Hélas, dit Pierrot, je vais donc me résigner et vivre.
Mais oui, mon garçon, résigne-toi.
Mais à une condition, ma reine.
Mais laquelle?
Mais c'est que vous me conduirez sur le champ jusqu'à cette forteresse invisible.
Mais je te l'ai dit, je ne puis pas, je suis pressé.
Pierrot tira son poignard d'un air tragique.
Bon, puisque le cas est si grave, dit la fée en riant, ouvre les yeux, badaud, et regarde.
Sans le savoir, Pierrot était juste devant le pont-levis. La fée Aurore, en le touchant de sa baguette, lui avait donné la faculté qu'elle avait elle-même de voir ce qui est invisible de sa nature. Le château devant lequel s'étaient arrêtés les deux voyageurs était recouvert d'acier poli qui réfléchissait les feux du soleil. Son architecture étant admirable mais sombre, et telle qu'on se figure aisément qu'elle devait être, puisque l'architecte était le démon lui-même. Il n'avait rien oublié de ce qu'il pouvait ajouter à la hauteur des murailles, à la solidité des grilles et des verrous, à la profondeur des fossés, au fond desquels coulait une rivière enchantée qui faisait le tour du château, et elle coulait continuellement, quoiqu'elle fût circulaire et qu'elle n'eût pas par conséquent ni source ni embouchure. Elle avait l'air d'un chien de garde plutôt que d'une rivière, et elle en remplissait les fonctions. Sa profondeur était immense, sa largeur prodigieuse et ses eaux toujours bouillantes, de sorte qu'il était impossible d'y mettre le pied sans être cuit ou vif. Au-dessus de la surface de l'eau, les murailles extérieures s'élevaient à une hauteur de 6000 pieds. Elles avaient 300 pieds de largeur à leur base. Au sommet était un large parapet, semé de distance en distance, de tours d'une élévation double de celle des murailles. Chaque tour servait d'habitation et de corps de garde à 100 esprits infernaux qui se partageaient la garde par moitié et qui se relevaient toutes les 24 heures. Il y avait 60 tours de cette espèce. D'autres génies malfaisants occupaient l'intérieur du château et en faisaient le service. On n'apercevait ni au-dedans ni au-dehors rien de ce qui repose l'esprit et de ce qui charme la vie. Point d'herbe, point de gazon, point d'animaux vivants. En face du château, s'étendait une chaîne de collines granitiques nues, sombres et stériles, sur lesquelles soufflait sans cesse le vent du nord. Cette chaîne, qui suivait presque les contours de l'enceinte du château, avait une forme semi-circulaire, et ses deux extrémités n'étaient séparées que par un défilé assez étroit qui aboutissait au pont-levis. Les collines qui la composaient s'élevaient presque perpendiculairement et ne laissaient à l'homme aucun moyen de les gravir avec les pieds ni les mains. En voyant de si formidables obstacles, la confiance de Pierrot fut ébranlée.
« Mais comment ferais-je, dit-il, pour lutter seul contre tant de démons ?
As-tu peur ? Lui dit la fée Aurore.
De ne pas réussir, oui, dit Pierrot, mais je ne crains pas de mourir si je ne puis la délivrer. Je ne veux vivre que pour elle.
Ainsi tu es bien résolu à tout tenter.
Oui, jusqu'à l'impossible, ma reine, oui.
Va donc, dit-elle,
Je te transmets la puissance que le divin Salomon, mon père, m'a donnée de voir, d'entendre et de lutter à force égale contre les mauvais génies. » À ces mots, elle prononça des paroles magiques dont Pierrot ne comprit pas le sens, mais dont il sentit aussitôt l'efficacité. Il lui semblait ne plus toucher la terre et ne plus rien avoir de commun avec l'espèce humaine. Il n'avait plus ni faim, ni soif, ni sommeil, ni fatigue. Il était comme une des puissances de l'air. La fée Aurore jouissait de son ouvrage. « Va, lui dit-elle, tu as combattu pour la justice, c'est-à-dire pour Dieu même. Va combattre maintenant pour ta fiancée. Dieu est ta dame, c'est la devise des anciens chevaliers. » Pierrot n'eut pas le temps de répondre, elle avait disparu. Si l'on me demande pourquoi la fée Aurore, qui était si puissante, si bonne et si aimée des malheureux, n'avait point délivré elle-même la pauvre Rosine, et pourquoi elle laissait courir à Pierrot seul les chances d'une si périlleuse aventure, je vous dirai, mes amis, que je n'en sais rien, et qu'apparemment cela devait être puisque cela était. Ensuite, je vous traduirai la réponse du vieil Alcofribas à cette objection. « Arrière ! » s'écrie-t-il, « ceux qui n'aiment que le bonheur sans fatigue. Arrière, ceux qui veulent que les alouettes tombent rôties dans leur bouche. Arrière, les paresseux et les lâches, car ceux-là pourront bien goûter un instant les joies fugitives des sens, mais ils ne toucheront jamais aux fruits immortels de la félicité qui est le partage des âmes sublimes. Qui n'a pas semé ne récoltera pas. Voyez, mes amis, si vous voulez vous contenter de cette raison. Pour moi, je la trouve excellente et je n'en veux pas chercher d'autre. » Pierrot, resté seul, fit 3 ou 4 fois le tour de l'enceinte du château, comme un lion qui cherche la porte d'une bergerie, mais il ne trouva aucun moyen de tenter l'escalade de force. S'il n'avait eu affaire qu'à des hommes, il aurait tenté l'aventure, et grâce au présent de la fée Aurore, il en serait sorti sans aucun doute avec succès. Mais il savait bien que les démons, qui disposaient d'armes aussi puissantes que les siennes, et qui faisaient bonne garde, viendraient aisément à bout de lui grâce à leur nombre. Alors il résolut d'essayer la ruse. Il prit un manteau de couleur sombre et percé d'autant de trous qu'une vieille écumoire. Il se coiffa d'un chapeau de pèlerin, et s'appuyant sur un grand bâton, il frappa à la porte du château. À ce bruit, le portier vint à la grille, et regardant Pierrot, qui avait l'air d'un vieillard cassé par les années, il se mit à rire. « Passe ton chemin !» lui cria-t-il à travers les barreaux, « et viens pas nous importuner !»« Hélas, Seigneur !» dit Pierrot d'une voix tremblante, « faites l'aumône aux pauvres pèlerins, je n'ai plus que quelques jours à vivre. » Le diable a des vices, comme le fait très bien observer M. Victor Hugo, c'est ce qui le perd. À ces mots, « je n'ai plus que quelques jours à vivre », le portier crut l'occasion favorable pour entraîner en enfer une âme de plus et recevoir la gratification que Satan promet à ceux qui lui amènent une victime. Il tira de sa ceinture un trousseau de clés et s'empressa d'ouvrir la porte. Pierrot, riant sous cap, entra lentement, comme s'il avait eu peine à se traîner, et demanda l'hospitalité. Justement, c'était un vendredi, et le diable, qui dînait d'un excellent jambon de Mayence et d'un bon pâté froid, trouva plaisant de faire commettre à son hôte un péché mortel, dès son entrée dans le château. Il offrit donc un siège à Pierrot et la moitié de son dîner. Pierrot comprit la ruse et sourit. Il s'assit sur un banc de bois près de la table, car si les portiers font bonne chère, ils sont en général assez mal logés, même en enfer, et coupa une tranche de jambon. Le diable le regardait avec des yeux brûlants de convoitise. Il croyait déjà tenir sa victime, mais il avait affaire à plus fort que lui. Au moment où Pierrot allait porter le jambon à sa bouche, il poussa vivement du coude la bouteille de vin muscat qui était entre son hôte et lui. Elle tomba à terre et se brisa en plusieurs morceaux. Le portier, alarmé, se baissa pour en ramasser les précieux restes, et Pierrot, profitant de ce qu'il était occupé et ne pouvait pas le voir, cacha subtilement la tranche de jambon dans son manteau et la remplaça par un énorme morceau de pain qui lui remplissait la bouche et lui gonflait les joues. « Mais quel maladroit vous êtes !» dit le portier en colère. « Voilà tout ce vin perdu, un muscat délicieux que j'avais justement volé hier au sommelier. N'en est plus que deux bouteilles, encore faut-il que j'aille les chercher à la cave. » « Mais excusez-moi, dit Pierrot, la bouche pleine, ma main tremble de vieillesse et je regrette bien plus que vous ce triste accident. » « Attendez-moi un instant, dit le gardien, qui ne soupçonna pas la ruse, je vais chercher du vin, continuez de manger. » Aussitôt il sortit, et Pierrot, saisissant prestement le jambon tout entier, le jeta au chien du portier qui le dévora en un clin d'œil. Comme il finissait ce repas, le gardien rentra. « Eh bien, où est le jambon ? » dit-il. « Mais là, dit Pierrot d'un ton lamentable, mais ne m'aviez-vous pas dit de manger sans vous ?»« Malpeste, mon camarade, comme vous y allez !» À ces mots, croyant que Pierrot avait commis le péché mortel de manger de la viande le vendredi, il leva sur lui son bâton en disant « Allez ça, qu'on me suive !»« Où donc, mon bon seigneur ?» dit Pierrot larmoyant. « Mais tu ne sais donc pas chez qui tu es ?» dit le gardien d'un air malin et féroce. Mais bon, mon bon seigneur, je pensais de chez Donnel Jean et de digne chrétien. Ha ha, dit le portier en riant. Mais tu es dans le château de Belzébuth, mon ami. J'en suis le gardien. Mais hélas, mon bon seigneur, que vous ai-je fait? Mais tu as mangé du jambon un vendredi, donc tu es ma proie, viens. Et il le saisit par son capuchon. « Où me menez-vous ? » dit Pierrot. « Dans l'antre de mon souverain maître, où tu auras le temps de pleurer ta gourmandise pendant l'éternité. » Il entraînait de force, mais Pierrot se dégagea. « Ah, traître, dit-il, c'est là l'hospitalité que tu m'offres ? Je te connaissais, perfide, et je me suis défié de toi. Ha, je n'ai mangé que du pain. » « Pécaille !» dit le gardien. En même temps, Pierrot prit une corde, non de ces cordes de chanvre qu'un homme peut couper ou casser, mais une corde divine, bénie par la fille du grand Salomon, et il lia les pieds et les mains du gardien. Puis il l'enferma dans la huche, alluma de la cire, et cacheta la huche avec son anneau constellé qui représente la figure du roi des génies, ce qui est une barrière infranchissable pour les démons. « Reste là, dit-il, hôte perfide, jusqu'à ce que je vienne moi-même te délivrer. » Puis, prenant le trousseau de clés du prisonnier, il entra sans crainte dans le château. Personne s'étonna de le voir et ne lui fit de questions. Les démons, parmi beaucoup de vices et de défauts, n'ont pas celui de la curiosité. Celui qui sait tout ne s'informe de rien. Ils étaient d'ailleurs habitués à voir rentrer leurs camarades vêtus d'habits vénérables lorsqu'ils revenaient d'expéditions lointaines. Pierrot passa donc pour un des leurs. Il entra dans la cuisine et s'assit tranquillement au coin du feu. « D'où viens-tu, camarade ?» lui dit amicalement l'un des marmitons. Ben, de faire un tour de promenade où je me suis fort amusé, mais j'ai froid et faim. Quel est donc ce repas que tu prépares? Mais ne le sais-tu pas, mais c'est celui du grand Belzébuth et de toute sa cour qui dîne avec lui aujourd'hui. Ah ah, dit Pierrot, ces grands seigneurs se nourrissent bien. Qu'est-ce qui cuit là dans ce pot-au-feu? Oh, c'est un gros financier, dit dédaigneusement le marmiton. Bon, il est gras et dodu, dit Pierrot en soulevant le couvercle. Une vapeur succulente de bouillie se répandit aussitôt dans toute la cuisine. Hélas, hélas, disait le pauvre financier, après avoir si souvent, si longtemps et si bien dîné, je sers à mon tour de pâture assez drôle. Mais qu'appelles-tu ces drôles? Dit le marmiton en colère. Mais toi et les tiens, répliqua le financier. Le marmiton saisit une grande fourchette et la plongea dans le pot comme pour s'assurer que le bouilli était assez cuit. Malheur à moi! Cria le financier. Il m'a percé les reins. Allons, camarade, dit Pierrot, saisi de compassion. Laisse-la, ce pauvre homme, et ne le tourmente pas inutilement. Ah, tu en as compassion, dit le marmiton étonné. Tu es donc un faux frère. Moi, un faux frère, dit Pierrot indigné, mais tu ne me connais guère. Je vois bien le bouilli où sont les entrées, ajouta-t-il pour changer de conversation. Oh, les entrées sont exquises, dit le marmiton, et toute la cour va s'en lécher les doigts jusqu'au coude. Celle de droite est une petite marquise en fricassée, tendre comme la rosée du matin, et que je vais mettre à une sauce dont tu n'as pas idée, mon pauvre ami. Car tu ne paraissais pas avoir beaucoup fréquenté la haute société, ni la haute cuisine. Hélas, non, dit Pierrot, mais cela viendra. Tu es bien heureux, toi, d'approcher de si grands personnages et d'avoir leur confiance, car tu dois être fort en faveur, étant si habile cuisinier. Moi, dit le marmiton d'un air dégagé, mais je m'en soucie comme de cela, et il fit claquer le pouce sous la dent. Quand on voit comme moi Belzébuth tous les jours, on se blase sur cet honneur, mon ami, on se blase. Et tournant sur lui-même, il mit ses mains dans ses poches et fit deux ou trois pas en levant le pied jusqu'à la hauteur de son nez. Pierrot paraissait ébloui et stupéfait. Il fit encore quelques questions au marmiton, auxquelles celui-ci répondit d'un ton de protection bienveillante. Ah, tu vois donc bien souvent Belzébuth, ajouta-t-il. Mais tous les jours, mon cher. C'est moi qui lui porte son café le matin. Mais te parle-t-il souvent? Oh, tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Oh, il me dit, ôte-toi de là, imbécile. Oh, dit Pierrot. Ce n'est guère la peine de le voir de si près, si tu n'en obtiens que de pareilles marques de faveur. Ben, c'est égal, mon cher, c'est toujours quelque chose de l'approcher. Les miettes d'un roi valent mieux que le rôti d'un pauvre diable. À propos de rôti, dit Pierrot, qu'est-ce que c'est que celui qui cuit là-bas devant le feu? Eh, parbleu, dit le camarmiton, c'est le grand Turc, tu le reconnais pas? On l'a rapporté hier, tout saignant du marché. Il venait d'être fraîchement poignardé par son frère. Mamet, Mamet! Criait piteusement le rôti. Va-t'en voir s'ils viennent, Jean, va-t'en voir s'ils viennent, chanta le marmiton d'une voix de fausset. Et la conversation continua. Pendant que Pierrot se chauffait, le marmiton continuait sa besogne, préparant des fritures de jeunes filles, piquant avec du lard un filet de notaire et un fricandeau d'épicier qui avait vendu du sucre à faux poids et de l'ocre pour du café. Notre habit s'introduisit peu à peu dans la confiance du marmiton, pensant qu'il pourrait en tirer des renseignements précieux. En effet, le marmiton lui apprit que Rosine et sa mère étaient enfermées dans une tour située à l'angle du château et qu'on leur portait tous les jours de la nourriture. Mais elle ne touche à rien, dit-il, et paraissent fort tristes. Oh, il faut que le chagrin leur ait coupé l'appétit ou que quelqu'un leur apporte secrètement des provisions par le chemin des airs, car elles sont déjà enfermées depuis plusieurs mois et elles vivent encore. Mais qui est-ce qui porte leur nourriture? Dit Pierrot. Et qui serait-ce, si ce n'est moi? Dit avec humeur le marmiton. N'est-ce pas sur moi que retombent toutes les corvées? Oh, chienne d'existence! Pendant que les grands seigneurs font bombance là-haut, moi je suis réduit à lécher le fond des casseroles. Bon, je te plains, dit Pierrot. Ce serait rien, reprit le marmiton. Mais figure-toi, mon cher, que je ne sais pourquoi on s'est embarrassé de ces pains bêches qui me font la mine du matin jusqu'au soir, que je ne puis pas maltraiter comme les autres. Cela m'est défendu par ordre supérieur. Ah, dit Pierrot, qui reconnut l'effet des soins de la fée Aurore. Cela fait pitié, dit le marmiton, de voir l'ennui que causent ici ces péronnelles. À ce mot, le Pierrot ne put se contenir et lui fit tomber les pincettes rougies au feu sur le pied. La corne du pauvre diable en fut brûlée et son poil roussi. Ah, gredin, dit le marmiton, et moi qui te traitais qu'en ami. Aussitôt, saisissant une broche, il se jeta sur Pierrot. Celui-ci, plus leste, prit une casserole pleine d'eau bouillante et l'encoiffa. Le marmiton poussa des cris affreux et tous ses camarades accoururent. Mais comme les diables entre eux n'ont point de pitié, ils éclatèrent de rire en ne voyant la tête prise sous la casserole que Pierrot maintenait de force tout en évitant les coups de broche. Enfin, Pierrot l'ayant désarmé, consentit à ôter sa casserole. Mais le marmiton furieux tira son couteau de cuisine large et tranchant et voulut le plonger dans le ventre de son ennemi. À cette vue, Pierrot saisit un tison brûlant et l'approcha des oreilles du malheureux diable, qui, comme tous ses confrères, les avait longues et velues. Ce fut un incendie après un déluge. Le diable jeta de désespoir son couteau sur Pierrot, qui l'évita. Le couteau alla percer le ventre du maître d'hôtel qui regardait cette scène en riant toujours. Aussitôt, il s'affaissa sur lui-même en retenant avec ses deux mains ses entrailles qui s'échappaient. Le combat devint alors terrible. Le marmiton, toujours plus exaspéré, prit le pilon de marbre qui servait à broyer les purées et se jeta tête baissée sur Pierrot. Celui-ci, toujours de sang-froid, l'évita encore. Le pilon et celui qui le portait allèrent donner dans la poitrine du chef des marmitons, qui tomba renversé sans connaissance. Peu à peu, la mêlée devint générale, et les coups tombèrent si drus et si menus sur tous les assistants qu'on ne savait plus auquel entendre ni qui on allait frapper, ami ou ennemi. Cependant, Pierrot, auteur de tout ce tapage, avait saisi à deux mains un tronc d'arbre arrondi sur lequel on hachait les damnés, et le faisant tournoyer autour de sa tête, à chaque coup il abattait un des diables. Peu à peu, tous s'écartèrent de lui et allèrent plus loin continuer le combat. Pierrot, profitant de l'occasion, gagna la porte et, prenant des mains du marmiton évanoui les clés de la tour et de l'appartement de Rosine, il y courut sans s'inquiéter si on le poursuivait ou non. Aussitôt qu'il fut parti, tout s'expliqua. On se demanda qui était cet étranger, cet intrus, cause d'une si effroyable désordre.
Le diable, qui commandait en chef le poste placé dans la tour la plus voisine, prit des informations, courut à la loge du portier, qui, toujours enfermé dans sa huche où le sceau de Salomon le tenait cloué jusqu'à la fin des temps, conta piteusement son histoire. On courut sur les traces de Pierrot, et l'on arriva juste au moment où il retirait en dedans la clé de la tour, fermait la porte et montait à l'appartement qu'occupaient Rosine et sa mère. Les diables essayèrent d'enfoncer la porte, mais inutilement. Elle était faite d'un métal choisi par Satan lui-même et dont la solidité était aussi supérieure à celle du diamant que celle du diamant est supérieure à celle du verre de vitre. Restait la serrure, mais les esprits infernaux qui montaient la garde n'étaient que de pauvres diables peu versés dans les sciences et qui ne connaissaient rien au secret magique dont elle était fermée. Il fallut attendre l'arrivée de Belzébuth qui, justement, devant dîner en grande compagnie ce jour-là, était allé à la chasse pour gagner de l'appétit. Ce fut la première nouvelle dont on salua son arrivée. « Bon, dit-il en se frottant la barbe avec un air de satisfaction, l'ennemi est dans la place, il n'en sortira pas. « Je le tiens enfin, ce fameux Pierrot qui me brave, se protéger de la fée Aurore, ma mortelle ennemie. Laissez-le en paix, ajouta-t-il, jusqu'à demain matin. Seulement faites bonne garde. S'il s'échappe, vous aurez chacun 300 coups de fouet. À demain les affaires sérieuses, ce soir, dînons en paix. » En 10 secondes, Pierrot escalada les 200 marches au bout desquelles se trouvait le corridor sombre qui conduisait à la chambre des deux prisonnières. Il frappa précipitamment à la porte. Elles crurent entendre un de leurs gardiens et se jetèrent dans les bras l'une de l'autre en frémissant. « C'est moi, Pierrot, votre ami Pierrot !» À cette voix si connue, elles coururent à la porte, et dans le premier transport de leur joie, je dois tout dire, elles l'embrassèrent tendrement comme un vieil ami. Mais cette joie se changea bientôt en tristesse. « Quel malheur, dit la mère, de vous voir ici prisonnier. Nous ne comptions que sur vous et sur la bonne fée Aurore. »« Moi, prisonnier, dit Pierrot. « Ah, si je l'étais, madame, près de vous, combien la prison serait douce !» Il parlait à la mère et ses yeux étaient tournés vers Rosine, qui baissait les siens en rougissant. « Ben, je ne le suis pas. Je viens ici de ma propre volonté pour vous délivrer. » En même temps, il leur raconta par quelle ruse il était arrivé jusqu'à elle et il leur parla de sa campagne contre les Tartares. Ce fut un long récit mêlé de protestations d'amitié, de dévouement, de fidélité à toute épreuve. Il montra à Rosine l'anneau constellé qu'il portait au doigt et lui raconta dans quelles circonstances la fée le lui avait donné. Enfin, je ne sais pas s'il était éloquent ni à quelle école il avait appris tout ce qu'il disait, mais depuis 3 heures de l'après-midi jusqu'à 3 heures du matin dura son discours. Et après 12 heures de conversation, il ne s'ennuyait point de parler, ni les prisonnières de l'écouter. Cependant, quand 3 heures sonnèrent, la mère fit signe à Pierrot qu'il était temps de se retirer, et le pauvre Pierrot monta à l'étage supérieur. Mais il ne put dormir, et se levant, il monta sur la plateforme de la tour, et se mit à contempler les étoiles. Toute la voûte du ciel était constellée, et Pierrot se livra de profondes méditations. Au fond, malgré son inébranlable courage, il n'était pas rassuré sur le succès de son expédition. Ben, je me suis mis dans la gueule du loup, pensa-t-il, il s'agit de m'en tirer. Comme il réfléchissait à la situation, il aperçut en face de lui l'un des esprits infernaux qui était en sentinelle sur la muraille extérieure du château. Ce démon, qui était d'une taille gigantesque, le regardait d'un air moqueur. « Pierrot fait le chevalier, dit-il. Pierrot protège les dames persécutées. Pierrot se fait prendre. Pierrot sera pendu. » « Peut-être, dit Pierrot, mais auparavant, il te coupera les oreilles. » « Les oreilles à moi ! » dit le démon furieux. Il allongea brusquement sa lance, qui avait plus de 300 pieds de long, et voulut en percer Pierrot. Mais celui-ci, qui était sur ses gardes, saisit la hampe de la hanse près du fer et la tira brusquement à lui. Du côté de l'intérieur du château, le rempart n'avait pas de parapet. Le pauvre démon suivit malgré lui sa lance jusqu'à moitié chemin et là lâcha prise. Il tomba sur le pavé de la cour et se brisa les reins. À ses cris effroyables, ses camarades accoururent, le chargèrent sur une civière et le portèrent à l'hôpital. Ici, on me demandera peut-être comment il se fait que les démons, qui sont de purs esprits, ont pu recevoir ou donner des coups de sabre, de lance ou de tout autre instrument tranchant ou contendant. Je vous avoue, mes enfants, que cette question m'a fort embarrassé pendant longtemps, jusqu'à ce que le vieil Alcof Ribas, qui est vraiment un puits de sagesse, m'ait donné l'explication suivante qu'il tenait lui-même du vieux Milton. « Les coups que reçoivent les démons, dit-il, ne peuvent jamais être des coups mortels, parce que les démons ne meurent pas. Mais ils produisent tous les effets de la mort civile. On enlève les blessés, on les porte à l'hôpital, ils sont hors de combat et ne peuvent plus nuire à leurs adversaires. » Pierrot demeura sur la plateforme jusqu'à ce que le ciel, blanchissant, lui annonça le lever du soleil. Il fit sa prière à Dieu, se recommanda à la fée Aurore, et attendit tranquillement, sans crainte ni impatience, l'attaque dont il était menacé. De leur côté, Rosine et sa mère n'avaient pas pu dormir. Dès que le soleil fut levé, elles allaient rejoindre Pierrot et lui faire leurs adieux. Oh, c'était une scène déchirante. Je vous souhaite, mes amis, de n'en voir jamais de pareil. Pierrot les obligea enfin à le redescendre. Il craignait pour elle l'émotion trop violente du combat qui se préparait. Vers 8 heures du matin, Belzébuth se leva, encore fatigué de l'orgie de la veille, car il avait passé la nuit presque entière à boire avec ses officiers. Il saignit sur le cimetière, s'arma de pied en cap et donna enfin le signal de l'attaque. Les démons étaient réunis dans la cour intérieure du château et sous les armes. L'avant-garde était armée de piques, de pioches et de haches pour enfoncer la porte. Au signal de Belzébuth, 6 des plus braves s'avancèrent et frappèrent la porte à coups redoublés. Belzébuth avait prononcé les paroles magiques qui la retenaient sur ses gonds. Elle vola en éclats, et des assaillants purent voir derrière ses débris Pierrot armé d'une masse d'armes qu'il avait trouvée abandonnée dans la tour. L'un d'eux s'avança résolument, mais Pierrot abaissa sa masse et l'assomma d'un seul coup. Le coup fut si violent que le malheureux démon en fut aplati, et que sa tête rentra dans son cou dans sa poitrine et sa poitrine dans son ventre. À cet aspect, les plus fiers reculèrent. Le second voulut prendre la place de son camarade, mais Pierrot, d'un revers, lui écrasa la cervelle contre le mur. En ce moment, il était armé de la force divine avec laquelle l'archange Michel terrassa Satan. Un pied sur le seuil de la porte, l'autre appuyé sur la première marche de l'escalier de la tour. Superbe, les yeux étincelants de courage et de colère, les narines gonflées et frémissantes, il effrayait les plus braves.
« Quoi ? » dit Belzébuth, « un homme seul pourrait nous arrêter ?»
Et il fit un pas vers Pierrot. « Oh, ma marraine !» s'écria alors Pierrot, « venez me voir vaincre ou mourir !»
À ces mots, il porta à Belzébuth un coup si épouvantable que si la tête de celui-ci n'ait pas été garantie par un casque à l'épreuve de tout, excepté de la foudre du Très-Haut, il eût été réduit en poussière. Malgré le casque, il roula tout étourdi dans la poussière. Ses soldats reculèrent épouvantés. La pauvre Rosine, qui de sa fenêtre regardait cet effrayant combat, battit des mains et applaudit au courage de Pierrot. Celui-ci, transporté de joie et d'orgueil, s'élança hors de la tour, renversa à ses pieds une dizaine d'ennemis, se pencha sur Belzébuth, lui arracha son cimeterre et voulut lui couper la tête. Mais au même moment, Belzébuth revenait à lui. Il se pelotonna sur lui-même et, roulant comme une boule, il échappa au coup que Pierrot lui destinait. L'ennemi était en fuite. Pierrot rendit grâce au ciel, referma la porte de la tour, la scella avec l'anneau magique de Salomon, et, tranquille désormais de ce côté, remonta sur la plateforme. Mais le danger n'était point passé, il n'avait que changé de forme. « Qu'est-ce que nos combats d'homme à homme, dit très bien Alcofribas en cet endroit, en comparaison de cette lutte sublime d'un seul homme contre les démons ?»« Chez nous, 100 000 hommes, tambours battants, enseignes déployées, marchent en ligne contre 100 000 hommes. On se bat pendant quelques heures, et de quelque côté que soit la victoire, le vainqueur fait panser les blessés et traite les prisonniers avec humanité. L'homme a affaire à l'homme. Mais le malheureux Pierrot se voyait seul, abandonné, contre tout l'enfer réuni. S'il tombait entre les mains de ses ennemis, il savait quelle torture lui était destinée. Rien ne pouvait fléchir Belzébuth, l'éternel ennemi de sa race. Il le savait. Et il ne trembla pas, il ne recula pas. Quand la terre et l'enfer eussent été ligués contre lui, seul, il sut faire face à tout. Son courage croissait avec le danger. Il ne sentait plus ni la peur ni les défaillances des autres hommes. Celui qui défend la justice, pensait-il, est invincible. Armé d'une conscience pure, il allait au combat. Quel que fût l'ennemi, il était sûr de vaincre. « Oh, mes amis, retenez bien ces paroles du vieil Alcofribas. Quel que soit l'ennemi, si votre cause est juste, avancez et frappez, la victoire est à vous. Peut-être croyez-vous que Pierrot était inquiet ou malheureux dans une lutte si inégale contre toutes les puissances de l'enfer. Ah, vous vous trompez. Pierrot était le plus heureux des hommes. Il jouissait du bonheur infini de donner sa vie pour ce qu'il aimait par-dessus toute chose. Verser son sang pour Rosine et sous ses yeux était un bonheur supérieur à tout ce qu'il avait rêvé. Heureux celui qui meurt pour ce qu'il aime. Son âme est animée d'un principe divin. Plus heureux encore celui à qui l'amour inspire des actions héroïques. Il est comme ces vases consacrés où le prêtre boit le sang de Dieu même et que l'homme pieux honore parce qu'ils ont retenu quelque chose du passage de la divinité. Le combat à l'entrée de la tour n'avait duré au plus que 10 minutes. C'était plutôt une escarmouche qu'une bataille décisive. Pierrot le sentit bien,
et sans s'arrêter à recevoir les félicitations de Rosine et de sa mère, il attendit en silence, et les bras croisés, un nouvel assaut. Les diables allèrent chercher les échelles qu'ils appuyèrent contre le mur de la tour et commencèrent à monter. Là où il ne s'agissait plus, comme avec les Tartares, de renverser l'assaillant dans le fossé, car les échelles, douées par Belzébuth lui-même d'un pouvoir magique, s'incrustaient dans le mur de manière à ne pouvoir en être séparées. Jusque-là, les diables avaient combattu Pierrot à armes égales. Le pouvoir dont la fée Aurore avait investi son filleul le mettait à l'abri de tous les enchantements. Et sans cette précaution, dès son entrée dans le château, le pauvre Pierrot, malgré son courage et sa présence d'esprit, eût été victime des esprits infernaux. Cependant, quoique les diables n'eussent sur lui que l'avantage du nombre et non celui d'une puissance magique supérieure à toutes les forces humaines, Pierrot, en les voyant grimper aux échelles, fut saisi d'un désespoir sublime. « Grand Dieu !» s'écria-t-il, « si telle est ta volonté sainte, laisse-moi périr, mais sauve Rosine et sa mère !» Tout à coup, il reconnut le doux parfum que la fée Aurore répandait partout autour d'elle. « Est-ce ainsi que tu perds courage ?» lui dit-elle. « Frappe, je suis avec toi !» À ces mots parut sur la muraille Astaroth, le lieutenant de Belzébuth. Il poussa un long cri de joie et de triomphe. Courage, ami, Pierrot est à nous! Comme il finissait de parler et se dressait debout sur la plateforme, Pierrot le frappa de sa masse d'armes dans la poitrine et le précipita dans la cour. Il eut le crâne fracassé et sa mort rendit quelque temps ses camarades indécis. Notre héros profita de cette hésitation pour frapper sans relâche les plus avancés. Ses coups tombaient sur leur tête comme la grêle sur les toits, et chacun d'eux froissait une cervelle ou un bras ou une jambe. Les morts et les mourants jonchaient le pavé de la cour. Pendant tout ce carnage, la pauvre Rosine élevait vers le ciel ses innocentes prières. « Ô Dieu !» disait-elle, « sauvez celui qui se dévoue pour moi !» Son cœur battait de frayeur et de joie à chaque coup que frappait l'invincible Pierrot. Quel homme que celui qui osait la disputer à l'enfer même! Enfin, les démons se lassèrent de fournir à Pierrot de nouvelles victimes. « Ami, dit Belzébuth, ne nous consumons pas en efforts inutiles. Nous n'avons pas encore usé de toutes nos armes. La plus terrible nous reste. Brûlons Pierrot dans sa tour. » Aussitôt, tous les diables entassèrent du bois et des fascines et y mirent le feu. De leur bouche sortaient les flammes, ces flammes dont ils seront dévorés dans l'éternité. Elles environnèrent la tour et montèrent bientôt jusqu'au sommet. Cette fois, tout était fini. Le courage de Pierrot ne pouvait plus lui servir de rien. Pardonnez-moi, mes amis, de le laisser dans un péril si cruel, mais il faut que je vous dise ce qui était arrivé à l'armée chinoise depuis qu'elle obéissait aux ordres du prince Horribilis. Mon cœur souffre de laisser Pierrot en danger de mort, mais Alcofribas veut que je vous parle des Chinois et des Tartares. Mais je suis forcé d'obéir.